This recording is volume 3 in the series of unintended indiscretions before microphone and camera.
T'entends ça?
Vous êtes à Sonar, non?
Sonar, l'émission qui remue-ménage le son. Dans ce numéro, on parle de traduction, de frontières, de multimodalité, de paysages sonores et d'eurysthésie. Une émission réalisée par Odile et Lola.
Arthur Rimbaud, voyelle. A noir, E blanc,
blanc,
I rouge,
rouge,
U vert,
O
bleu, bleu, voyelle.
O bleu, U vert,
I rouge,
blanc,
U vert,
A
O bleu,
noir,
voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes.
A noir,
noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre.
E
blanc,
candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle.
I, pourpre sans cracher, vire des lèvres belles,
dans la colère ou les ivresses pénitentes.
U,
cycle vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux,
paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O,
suprême clairon,
plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges.
O, bleu,
l'oméga,
rayon violet de ses yeux.
A noir, noir corset velu des mouches éclatantes.
E
blanc,
blanc, frisson d'ombelle.
I rouge, U vert, pourpre sans cracher, rire des lèvres belles. O bleu, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Voyelle.
Vous venez d'entendre notre lecture plutôt personnelle du très célèbre poème d'Arthur Rimbaud, dans lequel il fait correspondre chaque voyelle à une couleur, selon un jeu d'association d'idées ou d'images, singulière et expressive, mais pas forcément évidente. Ce poème est souvent utilisé pour parler de la synesthésie, qui est une modalité de la perception qui associe des sens que l'on considère habituellement comme cloisonnés. Avec Lola, nous avons voulu aller voir d'un peu plus près ce que c'est véritablement que la synesthésie et ce que son étude ou les questions qu'elle pose peuvent apporter à notre réflexion sur la perception sensorielle du monde. Ce deuxième numéro de Sonar est donc une entrée en matière sur la synesthésie, et il sera très probablement le premier d'une série, puisque nous avons prolongé la réflexion que nous vous proposerons dans les prochaines semaines d'autres pistes et d'autres émissions sur la question. Donc pour cette entrée en matière, nous sommes allés à la rencontre de Vincent Mignereau. Vincent Mignereau est chercheur indépendant dans divers domaines, et en particulier sur la synesthésie. Il a écrit plusieurs ouvrages, avec une approche plutôt philosophique, dans lesquelles il s'interroge sur notre façon de percevoir le réel, de le traduire et de le mettre en sens. Il est également l'auteur et le principal contributeur du site Synesthéorie, qui est consacré à l'étude des synesthésies, de leurs rapports historiques et culturels dans l'art, la philosophie ou encore la science. Mais surtout, Vincent Mignereau est lui-même synesthète, une particularité qui enrichit considérablement cette réflexion. Lola est donc allée à sa rencontre pour parler de la synesthésie en général, de sa propre expérience de la synesthésie et également du site Synesthéorie et des projets que Vincent Mignereau poursuit pour élargir la réflexion sur les liens entre les différents sens et sur la communication auprès du public sur la synesthésie. L'interview que vous allez entendre va être entrecoupée par d'autres lectures personnelles de poèmes que nous apprécions tout particulièrement, pour lesquels nous avons cherché à proposer une réflexion sonore sur les liens qui existent entre les sens.
Alors la synesthésie, c'est quelque chose qui n'existe pas au départ, en tout cas pour le sujet. C'est-à-dire que quelqu'un qui est synesthète, donc on va donner la définition scientifique, la synesthésie c'est une condition neurologique qui fait que le sujet, l'individu, perçoit de façon combinée différentes modalités sensorielles. Des associations de sens se font de façon involontaire et de façon consciente. Je donne quelques exemples. Certaines personnes, lorsqu'elles touchent une surface, la sensation tactile va générer un goût sur leur langue. Le toucher du velours, par exemple, va avoir un goût de sucre. Certaines personnes vont visualiser les parfums, donc sentir une odeur qui va être en quelque sorte matérialisée dans l'espace autour d'elles. Et donc là, pour le sujet qui nous intéresse plus, la synesthésie auditive, c'est le fait d'entendre... alors, pour certains, c'est juste la musique, pour d'autres, c'est juste quelques notes ou quelques timbres d'instruments. Il se trouve que moi, la synesthésie auditive, elle est plutôt déclenchée par à peu près tous les sons.
D'accord.
Donc, chez moi, les sons ont une matérialité, des couleurs et des formes qui, non seulement existent en moi, mais mon cerveau les projette, si vous voulez, sur mon environnement. Donc, on peut dire, de façon très résumée, que je vois la musique.
D'accord, c'est ça.
Voilà.
Et ça s'arrête jamais, c'est une perception qui vit avec vous. Et ouais. C'est pour ça que vous dites très bien, justement, qu'au final, la perception, la synesthésie, on ne la conçoit pas dans le sens où on vit avec.
C'est ça.
Et qu'on ne se rend pas compte qu'on est synesthète avant qu'on nous le dise.
Exactement. C'est pour ça que je disais que la synesthésie au départ, ça n'existe pas. Parce que c'est quasiment tous les synesthètes qui ont ce témoignage-là. S'ils ne découvrent pas de façon fortuite ou si on ne leur dit pas que leur vécu est singulier, ils ne vont absolument jamais s'en rendre compte spontanément. Parce que c'est tellement naturel et tellement spontané, on vit avec. C'est le mode naturel de fonctionnement du cerveau de ces personnes-là.
Il y a différents types de perceptions de synesthète, du coup. Enfin, je ne sais pas si j'utilise les bons mots.
C'est ça.
Et sur le site, effectivement, Synesthéorie, j'ai lu cette phrase qui me semble assez intéressante, l'intégration sensorielle multimodale. L'espace, le langage, voire même les émotions. Comment est-ce que c'est possible, finalement, de mêler tout ça et du coup, effectivement, de percevoir totalement différemment le réel?
C'est, à mon sens, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de combinaisons simplement terme à terme ou combinaisons de modes qui sont indépendants au départ. C'est plutôt l'inverse. C'est un processus. Et c'est un processus dont on voit la manifestation chez le synesthète, mais qui est en fait un processus normal chez tout le monde. Et ce processus-là, c'est un processus qui fait le lien entre un corps qui a une frontière. Voilà, votre corps, tous les corps, tous nos corps ont une peau, une interface avec le réel. Et le réel, lui, ne pénètre pas tel quel notre corps. Donc, il faut que nous mettions en sens ce réel dans sa dynamique, sa richesse, sa diversité, par toutes les façons que nous avons d'intégrer ce réel. Et nous n'avons pas que 5 sens, ça c'est la première chose. On définit un sens à partir du moment où il y a un récepteur dédié
à un
stimulus. Donc la douleur, il y a des récepteurs à la douleur, donc on n'a pas que 5 sens, les 5 qu'on connaît. On a aussi celui de la douleur, on a aussi celui de la chaleur. On a évidemment des émotions, on a des sensations proprioceptives qui ont leur récepteur dédié, leur cellule dédiée. Donc déjà, on a 9, 10, 12 sens, ça dépend des chercheurs.
C'est ça, alors vous utilisez toujours le mot sens, mais c'est plutôt effectivement des formes de réception en fait. Enfin, c'est une acceptation élargie du mot sens au sens où on le connaît justement d'habitude.
Ça n'existe pas un sens, en fait. C'est toujours un processus de compréhension. D'accord. C'est-à-dire que si je touche une surface, cette surface-là, si je n'ai pas appris à comprendre ce qu'elle est, elle ne va pas faire sens pour moi.
D'accord.
Donc, en fait, j'utilise le sens dans sa double acception, qui est celle de la perception et de la mise en sens. Voilà. Et un synesthète, c'est quelqu'un qui voit, qui perçoit de façon multimodale toutes ces modalités-là se faire sens, si je peux me permettre cette expression un peu alambiquée, mais une sensation tactile qui est interprétée dans une autre modalité ne va pas déformer le sens, l'origine du stimulus. C'est le même message qui est porté dans une autre modalité. Et c'est notre cerveau, notre système nerveux qui fait ça tout le temps parce qu'il est plus simple pour lui d'interpréter dans toute la richesse de son corps fonctionnant, c'est-à-dire qu'une sensation tactile n'amène pas forcément une réponse que pour cette sensation tactile. Il faut bouger quand on a, on a son téléphone qui vibre, par exemple. On a son téléphone qui vibre, donc on l'entend, soit on sent la vibration sur la table. Mais le corps, lui, il ne se contente pas de ça pour réagir. Il va aller vers le téléphone, donc il va falloir qu'il tourne le regard, il va falloir qu'il gère la motricité, qu'il gère l'équilibre. Donc une information dans une modalité va être forcément traduite dans le corps pour tout le reste, pour que l'adaptation soit cohérente. Donc ça, c'est le support de la synesthésie, c'est le fonctionnement normal du système nerveux qui traite tout dans la multimodalité. Et après, on a effectivement nos 9, 10, 12 sens, mais on a aussi d'autres façons de mettre en sens le réel et de l'intégrer et de le traduire, si vous voulez. Et on a des façons de le faire qui sont liées à nos émotions. Donc ça, c'est encore une chose qui s'ajoute à la synesthésie. Il est connu que les émotions telles quelles peuvent générer des couleurs. Pour certains synesthètes, c'est le déclencheur de la synesthésie.
D'accord.
C'est-à-dire que pour certains musiciens, si un morceau est tout à fait neutre pour eux émotionnellement, pas généré d'image, pas généré de couleurs. Par contre, si effectivement le morceau les touche, la synesthésie va apparaître. Il y a certaines personnes qui ont besoin même de jouer elles-mêmes d'un son pour que la synesthésie apparaisse, parce qu'elles vont avoir l'émotion du jeu, de leur propre jeu.
J'ai lu effectivement sur le site Synesthéorie toujours qu'il y avait un lien très fort entre synesthésie et eurhésthésie. Alors, dont je donne la définition, donc une possibilité d'accéder par la perception, c'est-à-dire jamais de manière volontaire, à une connaissance ou une compétence objectivable. Alors, qui serait peut-être, je vous pose la question, en lien avec une philosophie assez empiriste. Et ce lien effectivement entre synesthésie et art, vous venez tout simplement effectivement de soulever avec l'idée d'un musicien dont la synesthésie serait motivée par une émotion. Et peut-être que justement, c'est peut-être le signe justement qu'on entre dans quelque chose de créatif. Comment vous reliez les deux, ces deux pôles-là?
Vous l'expliquez très bien. Alors, je suis ravi que vous introduisiez ce concept. C'est une notion que je me suis permise de concevoir, de créer, l'eurhésthésie. Donc, étymologiquement, l'aesthésis, donc, qui est la même racine que dans le mot synesthésie, c'est effectivement l'esthétique, le sens, la perception et une forme d'intelligence. Et l'heuristique, donc le radical, le préfixe que j'ajoute à ce radical, est celui de la découverte. Donc je me suis permis d'interpréter, si vous voulez, des témoignages qu'on a trouvés, que ce soit pour des philosophes, des physiciens, des mathématiciens et des artistes, qui ont dit, voilà, ils ont écrit sans savoir même qu'ils parlaient de synesthésie, ils ont dit, moi cette équation-là, je l'aperçois d'une façon très abstraite, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de symboles, ce sont des couleurs, des textures, des mouvements. Poincaré le dit très bien, quand il est dans un univers d'équations, eh bien c'est dans son corps à lui que des mouvements se font et que des formes d'accélération intérieure, des compressions, des élans se font, et toutes ces manifestations physiques sont en fait le sens, et on en revient à l'interprétation, le sens porté par les équations. Donc on est dans des niveaux d'abstraction très, très grands, mais qui sont reliés malgré tout à des processus, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, des processus d'interprétation du réel. Et c'est cette rencontre entre quelque chose de très premier, très sensorimoteur, qui est la perception, et des processus très élaborés de la connaissance et de la découverte, comme des équations, qui est pour moi à l'origine de ce terme, qui recouvre une forme particulière d'intuition, qui est l'eurhésthésie.
L'eurhésthésie. Voilà. Et alors justement, vous parlez notamment du langage, de la manière de partager alors ce qui est à mi-chemin entre une sorte de connaissance, puisqu'on produit de la connaissance, mais surtout effectivement cette perception première, presque primaire. Et ce partage de la perception, elle est quand même difficile. Elle est difficile à concevoir. Alors déjà, de manière générale, partager une perception, ça reste au niveau langagier compliqué. Mais j'imagine qu'en tant que vous-même synesthète, faire comprendre à quelqu'un qu'on partage différemment le réel, qu'on met en sens le réel différemment, comment elle se conçoit cette difficulté langagière? Et vous semblez être un peu un passeur déjà de votre propre synesthésie à d'autres, mais également apparemment d'autres synesthésies que vous ne partagez pas, des synesthésies effectivement tactiles, gustatives. Comment faire?
C'est un écueil presque. Ouais. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans le témoignage de synesthètes qui sont pourtant des créateurs, c'est que l'étape la plus difficile... Certes, le processus créatif est délicat, c'est un grand investissement énergétique, c'est parfois troublant. On a des choses qui se passent à l'intérieur de soi qui nous dépassent. Et une fois que, on va dire, la représentation est là et qu'elle est esthétique, c'est-à-dire belle dans le sens qu'elle fait sens et qu'elle est pertinente, eh bien, on n'a pas encore un processus eurhésthésique. La finalité du processus eurhésthésique, lorsqu'il est terminé, c'est qu'il a été traduit et qu'il est devenu objectivable, c'est-à-dire qu'une équation mathématique, si Poincaré avait juste eu une révélation à l'intérieur de lui et qu'il ne l'avait pas traduite, personne n'en aurait bénéficié et on aurait toujours pu douter de ses découvertes. Donc le plus difficile, c'est la traduction. Il y a une traduction d'une abstraction extrêmement grande en un langage compatible avec le langage de la société des autres humains. Cette chose-là, c'est un peu le cœur de mon travail, mais je n'ai pas la recette pour vous dire comment ça se traduit. Ceux qui traduisent le mieux cette conversion-là d'une perception en quelque chose de cohérent, c'est les poètes, les artistes, les écrivains, qui utilisent la métaphore. Les linguistes posent même la question de savoir dans quelle mesure la métaphore comme procédé de traduction du réel n'est pas en soi quelque chose qui est sous-tendu par des processus synesthésiques.
Thank you.
Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu, sous la lune, sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Je n'entends plus le chant du batelier.
Holla out your city if you ride for it. Let them know why you die for it. Same reason all these riders get high, so it's all medicinal. Now what you won't buy, homie?
Écoutez la chanson.
Buy bitch, mob shit, boss talk, game rich, name game, gang sign, gang sign. Work on the phone, call it baseline. Yup, line dance like a hold down, pimps up, daytime, whole block of ghost town, ghost ride, ghost face, G's get ghost in a moment, pour a little for the ghost of the dead, homie.
Tout l'or des nuits tombe. En tremblant, s'y reflété,
d'un vin trembleur comme
la voix chante toujours à en ras le mourir. Ces fées aux cheveux verts qui incantent
debout,
l'été.
Chantez plus haut.
Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire.
Alors justement, vous-même, vous êtes synesthète. Comment est-ce que vous vivez du coup votre synesthésie? Vous avez parlé du son tout à l'heure. Comment donc vous la vivez au quotidien? Et après, comment vous pouvez justement la transformer, la faire partager d'un point de vue notamment artistique.
Alors, je me proclame pas artiste pour ma part. La synesthésie, pour moi, je l'ai vécue en deux temps, c'est-à-dire qu'elle a été extrêmement intense quand j'étais enfant et adolescent, et puis elle s'est estompée. Alors, tout en restant présente en tant que, on va dire, fonction, elle est là, elle est toujours là, mais en tant qu'intensité et trouble, on va dire, en tant que c'est émotionnellement puissant, ça s'est beaucoup estompé. C'est-à-dire qu'elle est presque, comment dire, neutre maintenant. Elle est fonctionnelle, uniquement au-delà d'être simplement de l'émotion. Quand on est enfant, on vit dans un environnement intérieur qui est incompréhensible et ce sont les émotions qui nous guident. Voilà, ouais. Ça, c'était l'état dans lequel je vivais la synesthésie autrefois. Et maintenant, la synesthésie, c'est presque un outil, je dirais. Je la regarde avec un peu plus de retrait, de recul. Et maintenant, quand je perçois effectivement tous les sons, toujours, je les trouve presque graphiques.
Alors, est-ce que ça veut dire que quand on vous a dit que vous étiez synesthète, ça a changé du coup votre regard sur votre propre synesthésie?
Non, parce que j'ai découvert après cet apaisement intérieur, que c'était de la synesthésie, ce que je vivais au quotidien. Donc, ce n'est pas la découverte, ce n'est pas de mettre le nom dessus, c'est plutôt, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de synesthètes, à l'entrée dans l'âge adulte, il y a un apaisement ou un estompage, on va dire. C'est assez fréquent. Après, il y a des personnes chez qui ce n'est pas le cas et pour lesquelles ça reste permanent, aussi intense toute la vie. Pour moi, il y a eu cette frontière, on va dire.
Vous parlez d'intensité, d'estompage et d'apaisement. Est-ce que ça veut dire que, enfin, après, non, apaisement, il y a l'idée que peut-être il y avait une sorte... pas de douleur, mais quelque chose de très très fort. Qu'est-ce que ça veut signifier exactement dans l'idée d'apaisement? Je ne sais pas, j'arrive pas très bien justement à concevoir comment on peut apaiser une forme de synesthésie.
Alors il faut imaginer que la représentation synesthésique, c'est pour ça qu'elle est difficile à traduire, c'est qu'elle n'a pas du tout la forme des pensées. Une pensée, c'est circonscrit, on arrive à en faire le tour ou à déterminer une frontière, on délimite les pensées. La synesthésie, ça fonctionne exactement à l'inverse, c'est-à-dire que c'est un processus qui fait du lien toujours avec tout ce qui existe en soi. Et du coup, la représentation synesthésique n'a pas de bord, elle n'a pas de frontière. Quand je regarde un environnement, quel qu'il soit, où il y a de la musique, l'environnement va faire buter ma perception. Quand je regarde uniquement la musique, comme je l'aperçois, il n'y a pas d'horizon. La musique se déploie dans un univers sans fin. Alors, ce qui s'est apaisé, c'est la sensation de vertige. C'est ça que je voulais dire.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on est dans un environnement où le soi existe, est solide, avec ses pensées, sa structure langagière, tout est circonscrit, tout fonctionne parfaitement, mais dans ce vécu-là, il y a aussi des représentations d'un autre ordre et d'un ordre bien plus vaste. C'est pas une conflictualisation, mais la relation entre ces deux univers intérieurs, qui est sur des niveaux très différents et pas dans des mêmes dimensions, oui, est parfois vertigineuse. Et ensuite, du coup, maintenant, je regarde les distances avec plus de recul, effectivement. Oui. Je sais qu'elles sont infinies. Hein, mm-hmm. Voilà, c'est la perception ne définit pas de bord aux représentations. Mais je suis plus posé, mm-hmm, au milieu de cet univers-là.
Alors justement, il y a sur le site Cines Theory un long passage sur Henri Atlan, ou Atlan,
Atlan,
qui est médecin, biologiste, philosophe et écrivain, et qui dit cette phrase qui justement résume un peu ce que vous venez de dire. L'esprit et le corps sont unis, quelle que soit la façon d'en parler. Et par rapport à ça, je voulais vous interroger sur la notion de durée chez Bergson, et l'idée qu'effectivement chaque personne conçoit et vit, du coup, donne sens, met en sens la réalité de manière vraiment propre. On parlait tout à l'heure de temps et d'espace, que cette perception, qu'on soit synesthète ou non, par ailleurs, est propre à chaque individu. D'une certaine manière, on est un peu tous synesthètes de ce côté-là.
Oui.
C'est comprendre que chaque individu est particulier.
Il se trouve que je me suis questionné sur la notion de durée et je me pose la question, justement, alors, dans le cadre de modèles bayésiens, je ne sais pas si vous avez une appréhension de ces modèles-là. La question de la durée, effectivement, elle est peut-être une artificialité complète pour moi, oui, dans le sens où il n'est pas impossible que le réel n'existe pas en dehors de l'instant. Et que, effectivement, tout ce qui passe n'ait aucune permanence.
D'accord, c'est une matérialité toujours renouvelée.
Voilà, et qui se dilue. Enfin, voilà, on serait dans un glissement. Le réel, lui, serait dans un glissement et qui ne laisserait aucune trace derrière lui. Par contre, effectivement, nous avons une perception d'une forme de continuité. Et puis, les instants ont des, comme on le disait tout à l'heure, des frontières. Il y a une durée. Mais cette durée-là, la question, c'est de savoir dans quelle mesure ça ne serait pas finalement qu'un raisonnement à rebours, et on projetterait sur le réel une forme de durée. Alors, votre question est particulièrement intéressante. Parce que quand on définit une durée, on est dans des structures de langage, on est dans des structures de pensée. Mozart disait, je ne sais pas, moi je ne pourrais pas dire dans quelle mesure il était synesthète ou pas, mais il a quand même expliqué, il a dit une phrase dans un courrier, il a dit qu'il était capable de se promener dans une symphonie, et toute cette symphonie dans sa représentation, que j'imagine être d'ordre synesthésique, tout l'instant, enfin, cet instant représentationnel comprenait toute la symphonie, toute la durée de la symphonie. Et il n'est pas improbable qu'en plus de ne pas avoir de bord, les synesthésies n'aient pas du tout la même notion de temps, de temporalité, que celle que nous construisons culturellement, que nous avons construite pour discuter entre nous. Donc le vertige est de multiples ordres, d'ordre multiple, et voilà. Effectivement, nous sommes dans des univers mentaux qui, même dans la temporalité, peuvent ne pas être compréhensibles l'un dans l'autre et pas réductibles l'un dans l'autre.
Ce qui est assez incroyable, justement, du point de vue de la synesthésie, on en parle en fait depuis tout à l'heure, c'est que en fait ça mêle de manière vraiment très très forte science et art, des choses qu'on a souvent l'habitude de, malheureusement, en tout cas presque d'instinct, à séparer aujourd'hui au XXIe siècle. Et justement la synesthésie, mm-hmm, a cette force en fait de ne pas pouvoir séparer tout, mm-hmm, ça. Est-ce que vous est venu du coup le besoin effectivement de concrétiser tout ce dont vous avez, oui, parlé philosophiquement, etc., dans ce projet du coup Cines Theory? Avec qui avez-vous travaillé? Quelles sont du coup les finalités et l'enjeu de tout ça?
Moi, j'ai fait le processus à l'envers, c'est-à-dire qu'au départ, je ne savais pas, mm-hmm, séparer les disciplines.
Oui.
Je ne peux pas. C'est là où la synesthésie que je vis m'a questionné. Oui. C'est-à-dire que, et ça a même été compliqué parfois à l'école, c'est-à-dire qu'on m'apprenait les mathématiques de façon clivée avec la physique et la biologie, et ça ne fonctionnait pas pour moi. Voilà. Donc, le projet Cines Theory est en effet une tentative de reconstruire, à partir de la perception, notre façon de mettre en sens tout ça dans une connaissance qui soit complètement intégrée. Donc les différents textes que je propose, je les soumets à la contradiction et j'espère que peut-être on peut y percevoir, sinon un résultat final, parce que ça je ne peux pas prétendre dire que je vais réunir tous les savoirs en un seul procédé, mais peut-être donner cette intuition que ça sera peut-être accessible un jour. J'essaye de développer des projets, alors je ne suis pas artiste comme je disais tout à l'heure, mais des projets qui sont vraiment à la croisée des arts et des sciences avec les paysages sonores.
Voilà,
je travaille déjà avec des scientifiques qui m'aiguillent un petit peu sur le contexte, le fonctionnement cognitif, la neurologie. Aujourd'hui, les données qu'on a, les modèles bayésiens m'intéressent beaucoup. Et puis d'un autre côté, je m'adresse à des graphistes pour donner une touche esthétique, effectivement, celle qui est cherchée dans l'objet visuel image-son. et avec des collaborateurs qui maîtrisent le développement informatique bien mieux que je ne le ferai jamais, on propose une interface.
Tout cela marche ensemble, d'une certaine manière, l'étude des processus cognitifs et la créativité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement d'un peu plus de paysage sonore ? Vous dites « c'est voir les sons ». Alors, vous-même, vous vous êtes présenté vous-même comme un cinéaste qui voit les sons. Est-ce que du coup, ça a un écho, effectivement, j'imagine, personnel assez particulier, ce travail ?
Ce travail, il a pour ambition, effectivement, de partager ce vécu-là, mais pas d'en faire une retranscription de mon vécu. Ouais. Parce que la synesthésie, la mienne, probablement qu'elle ne parlera pas à beaucoup de gens. Les paysages sonores ont plutôt pour ambition de faire comprendre le processus, puisque c'est vraiment ça. Il n'y a rien de statique dans tout ça, et de le rendre accessible, que les personnes, tout un chacun, puissent se l'approprier. Donc l'interface qu'on développe, c'est plutôt, on va dire, un bac à sable, avec plusieurs objets, mais ces objets-là, ils ont des paramètres de correspondance. Donc les objets sonores et les objets visuels communiquent les uns avec les autres. Mmh. Et lorsqu'on modifie un objet visuel, l'objet sonore se modifie et réciproquement.
Vous pouvez nous donner un exemple de comment ça fonctionne exactement ?
Je peux vous donner un ding, par exemple. Donc cette interface-là va jouer un ding et puis va faire une image que j'aurais créée, produite avec un graphiste. Donc vous allez avoir un objet image-son, un objet hybride de ding. Je ne peux pas vous décrire malheureusement verbalement la forme de l'image. Par contre, l'interface va permettre de modifier la texture. Le paramètre, c'est la texture. Ce qui est intéressant, c'est que le paramètre va aboutir à deux modalités, la texture du son et la texture de l'image. Donc, si je clique sur le bouton texture et que je modifie la texture de l'image, qui va devenir plus rugueuse, par exemple, eh bien, le son, au lieu de faire ding, va faire cring, peut-être. Donc, ce genre de correspondance-là qui est très intuitive, puisque les musiciens parlent, et puis tout un chacun, nous parlons tous de la musique avec un vocabulaire tactile ou visuel. Donc, la porte d'entrée, c'est en fait quelque chose qu'on a tous, mais que j'essaye de matérialiser de façon différente via une interface, pour que nous ayons, du coup, que nous regardions d'une autre façon notre propre fonctionnement intérieur et langagier. En fait, tout ce processus de mise en sens.
Alors du coup, ça nous permettrait donc d'un son retrouver une image, une texture, et aussi en modifiant la texture, comme vous dites, changer également le stimulus sonore.
Voilà, tout à fait. D'accord. Dans les deux sens. On peut changer la couleur, on peut changer, si on positionne l'objet différemment dans l'espace, l'objet visuel, l'objet sonore va changer de position dans l'espace, etc.
Effeuille la rose des vents. Voici que bruissent les orages déchaînés.
Et pourtant,
les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés, bilboquets diaboliques.
J'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes des voies des essieux grinçant sur les rails congelés.
Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route. Les chefs de gare jouent aux échecs, tric-trac, billard, carambole, parabole.
Le ferlin d'or de mon avenir. Mon Browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté.
La voie ferrée est une nouvelle géométrie, Syracuse, Archimède.
L'épatante présence de Jeanne.
Et les soldats qui les gorgèrent, et les galères, et les vaisseaux.
L'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et me regardait en passant.
Et les engins prodigieux qu'il inventa.
Froissie de femmes et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, pas de nature.
Autant d'images d'associations que je ne peux pas développer dans mes vers, car je suis encore fort mauvais poète, car l'univers me déborde, car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer, car je ne sais pas aller jusqu'au bout et j'ai peur.
Et derrière, les plaines sibériennes, le ciel bas et les grands ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je suis couché dans un plaid, bariolé, comme ma vie. Et ma vie ne tient pas plus chaud que ce châle écossais. Et l'Europe tout entière aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle, effiloché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée.
Sonar numéro 2, c'est fini, mais on n'en a pas fini avec la synesthésie, car on en parlera dans d'autres numéros, également avec Vincent Mignerot, que nous tenons à remercier tout particulièrement. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro de notre émission sur le son dans tous ses états. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page de l'émission. Et vous pouvez bien évidemment vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les informations sur les émissions à venir ou déjà publiées. À très bientôt donc, et n'oubliez pas d'ouvrir l'oreille.